Vivez l'événement en direct.
En direct avec RTVFM.
RTVFM.
Nous sommes toujours en direct, Josie, de la salle des Verdeaux à Bédarrides, sur un événement qui est organisé par la Ligue de l'Enseignement et la Fédération des Centres Sociaux du Vaucluse, qui lance la 7e rencontre Semaine Éducation contre les Discriminations.
Donc, c'est bien ça.
Voilà, tout à l'heure, nous avons eu deux invités, Salima Ezari et Elsie Guillaume, qui sont venus nous parler un petit peu de la Fédération des Centres Sociaux du Vaucluse et qui sont venus nous parler aussi de cet événement qui se déroule toute la journée.
Oui, c'est bien une petite affaire d'avoir organisé une journée comme ça et en même temps, ça s'impose vu les circonstances que nous connaissons. Tout ça.
Tout à fait. Donc, en co-organisateur, nous avons présente devant les micros Sylvie Brignat. Bonjour Sylvie Brignat.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la Ligue de l'Enseignement de Vaucluse.
Oui, tout à fait.
Et nous avons également Jérôme Cernoya, qui est conférencier. Oui, et,
bonjour.
Et conférencier, vous intervenez en tant que conférencier, vous êtes pour la fondation du camp des Milles.
Oui, du camp des Milles.
Du camp des Milles. Merci en tout cas tous les deux d'être présents devant les micros. On va peut-être donner honneur aux dames.
Bien sûr.
Voilà, de nous présenter pour ceux qui ne connaissent
pas. C'est de la discrimination.
Non, ça c'est de la politesse. Ça c'est de la
politesse. Ah, faudrait se mettre d'accord sur les mots.
Alors. Moi, je le mets dans le cadre de la politesse.
Au cœur du sujet.
Dans mon éducation, c'est la politesse. Alors dites-moi, est-ce que vous pourriez nous présenter la Ligue de l'Enseignement?
Avec grand plaisir. La Ligue de l'Enseignement, c'est un mouvement d'éducation populaire qui a 150 ans, qui a fêté ses 150 ans l'an dernier, dont 151 ans cette année, et qui, depuis son origine, a un seul but, celui de son fondateur, qui s'appelait Jean Massé, qui est d'éclairer le citoyen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'on n'a jamais fini d'apprendre. Cela veut dire que dans la vie, on est toujours confronté à ses propres points de vue et que ces points de vue, il faut absolument les faire évoluer. Alors ce mouvement d'éducation populaire, à son origine, il voulait aider la République naissante à forger des citoyens éclairés, à s'implanter correctement pour permettre à cette République de se développer. Et pour cela, il y avait des actions qui étaient mises en œuvre. C'est pour ça que ça s'est appelé longtemps la Fédération des œuvres laïques. Donc ils œuvraient auprès des citoyens, jeunes, moins jeunes, dans des domaines très divers. Ça touche à la culture, ça touche à l'éducation, ça touche au sport, ça touche aux loisirs, ça touche à l'animation. Et tout au long de son histoire, la Ligue de l'Enseignement a développé des actions liées avec l'époque, bien évidemment, pour permettre aux citoyens de s'éclairer. Un exemple, l'an dernier, on a mis à l'honneur un personnage local, vauclusien, montfavétain, qui s'appelait Édouard Petit. Complètement méconnu aujourd'hui. Il a été vice-président de la Ligue de l'Enseignement National. Il a travaillé auprès de Ferdinand Buisson, personnage un petit peu plus connu.
Oui.
Et il avait été mandaté par Ferdinand Buisson pour travailler autour de la question du post-scolaire. C'est-à-dire, une fois que les enfants sortent de l'école, qu'est-ce que l'on peut mettre en place comme activité pour continuer à l'accompagner sur son jeune âge avant de devenir un citoyen en capacité de voter? Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Édouard Petit, il a inventé, par exemple, l'ancêtre du cinéma. C'est-à-dire, par les projections lumineuses, eh bien, il pouvait amener les personnes à découvrir tout le savoir qui, à l'époque, était en train de se populariser et de se disperser. Ouais. Il pouvait comme ça montrer ce qui se passait, faire connaître les animaux que ce que l'on pouvait découvrir dans des pays comme l'Afrique. Et il a été aussi, par exemple, alors ça aussi, contexte de l'époque, le sport en dehors de l'école, c'était par exemple apprendre à manier les armes. Et oui, parce que le sport, on le connaissait que à travers l'armée. Et bien entendu, il fallait permettre au corps de se développer, parce qu'il y avait aussi l'histoire de l'hygiène qui commençait à apparaître, mais il fallait aussi, en vue de la défense de cette patrie, éduquer les enfants au maniement des armes. Donc, il nous a semblé intéressant d'interroger tout ça à l'heure actuelle où l'on a parlé, et je le mets malheureusement au passé, du périscolaire, c'est-à-dire ce périscolaire qui devait venir renforcer le rôle de l'école et permettre à des enfants qui n'avaient pas la possibilité d'accéder
à des loisirs,
de pouvoir y accéder.
Vous étiez dans ce combat, vous étiez partie prenante puisque vous avez poussé la Ligue justement l'enseignement pour le périscolaire. Et c'est vrai que le périscolaire disparaît petit à petit. Même la commune de Carpentras, c'est les parents qui ont voté, qui ont souhaité revenir à la semaine des 4 jours. Donc ce n'est pas toujours qu'une volonté des élus. Parce qu'on a entendu souvent une histoire financière, mais il y a aussi aussi les parents qui ont décidé. Là, pour Carpentras, les parents, par exemple.
Les parents, les enseignants, les municipalités, effectivement, ça a été un enjeu financier très important. Et puis, on ne va pas refaire l'histoire, mais, et puis il y aurait de quoi dire. Mais effectivement, cette réforme, elle a avorté. Moi, je le regrette. D'autant plus qu'il y avait des municipalités qui avaient fait des choses fort intelligemment. C'est-à-dire qu'il avait véritablement réfléchi à mettre en place des activités de qualité. Et tout ça retombe comme un mauvais soufflet, alors que, vous voyez, depuis 150 ans, eh bien, la question est toujours la même. Comment on aide le citoyen à devenir un citoyen en capacité de faire des choix? Parce qu'il ne s'agit pas de faire des bons choix, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un bon choix, mais de faire des choix et de les assumer après.
Voilà. Alors là, aujourd'hui, c'est la 7e rencontre. Dès le départ, je crois que c'est vous qui avez initié ces rencontres. C'est la 7e. Tout à l'heure, la Fédération des centres sociaux sont arrivés après.
Tout à fait.
C'est vous qui avez démarré, qui êtes à l'initiative de ces rencontres. Racisme, antisémitisme, des sujets, des thèmes très forts. Malheureusement, je dirais d'actualité. Peut-être une question concernant les annonces hier de notre président de la République sur le fait de beaucoup plus contrôler, vous pouvez répondre aussi, monsieur Cernoia, d'essayer de beaucoup plus contrôler tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, cette violence. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de réaliste ou pas, et est-ce que c'est un bon début?
Alors, je me lance dans une réponse à mon niveau, après tu feras... Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il faut s'emparer de la problématique. On ne peut pas continuer à laisser dire tout et n'importe quoi. Mais en même temps, il faudrait s'interroger sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui a permis une certaine libéralisation de la parole. Mais en même temps, pourquoi un tel déferlement de haine? C'est-à-dire, il y avait un superbe article de Marcel Gaucher qui dit « On est passé dans une démocratie des affects ». Aujourd'hui, je crois qu'on n'arrive plus à gérer les affects. Il n'y a plus de distance et il n'y a plus de raison. J'en reviens au siècle des Lumières qui disait « plus il y aura d'école, moins il y aura de prison ». Et en fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aussi cette gestion, il faut l'apprendre dès le plus jeune âge. Ce n'est pas parce qu'on perçoit quelque chose, ce n'est pas parce qu'on ressent quelque chose que c'est la vérité.
Tout à fait.
Et que du coup, je peux la dire comme je veux, où je veux, quand je veux. Ce n'est pas ça la liberté. Ce n'est pas ça la liberté. C'est pas faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, quand ça me chante. Surtout quand je suis protégée quelque part par un anonymat. Et on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que là, c'est la haine, c'est le déferlement et c'est la violence gratuite. C'est la violence qui peut se déchaîner. Et une violence qui ne va pas avoir un but précis, parce que la violence est une force qui peut être mise au service d'une action pour faire évoluer quelque chose. Ça va être de la violence parce que vous m'avez regardé de travers, parce que, madame, vous avez des lunettes qui ne me conviennent pas, du grand n'importe quoi. Donc je crois qu'il y a une véritable réflexion à avoir par rapport à qu'est-ce qu'on a. Je vais même aller plus loin, aller au risque de provoquer les choses, mais parce qu'on est sur une journée de réflexion. On ne veut plus du patriarcat. Très bien, normal. C'est dépassé.
Oui.
Mais le patriarcat, c'est quand même quelque chose qui a tenu plus de 20 000 ans, si je ne me trompe pas, à quelques années près, et qui a permis de contenir cette bête. Alors aujourd'hui, on n'en veut plus. Super. Sauf que la bête, elle est toujours là. Et qu'il faut arriver à trouver un moyen de la canaliser. Alors peut-être plus de l'étouffer, comme elle était étouffée, mais peut-être d'arriver à la canaliser.
Monsieur Cernoia, votre point de vue justement sur ce qu'on était en train de discuter, sur ce contrôle éventuellement d'Internet, cette violence, qu'il n'y a pas qu'Internet qui est responsable malheureusement. Oui. Est-ce que c'est déjà un vecteur pour vous important? Est-ce que, comme faisait remarquer tout à l'heure Josy sur un précédent interview, est-ce que vous pensez que ce sont les mêmes qui déversent cette violence sous couvert de l'anonymat sur Internet et ceux qui, dans la rue également, est-ce que vous pensez que c'est les mêmes ou c'est différent?
Alors, j'ai aucune idée, sincèrement, parce que moi, je suis pas tout à fait qualifié sur ces questions-là. Par contre, ce qui nous semble évident, nous, à la Fondation du Camp des Mines, le travail qu'on fait, notamment à travers le pôle formation dont je m'occupe, c'est que ce qu'on voit dans ce que nous remontent les professionnels de terrain, dont certains sont issus de la Ligue, hein, puisque plusieurs personnes de la Ligue sont venues en formation, c'est qu'il y a effectivement une réalité de la violence, de ce qu'on appelle nous la banalisation du langage sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pas aux journalistes que vous êtes que je vais apprendre que ça a pris une très très grande place dans la place des jeunes, et pas que, dans nos vies en fait, hein, dans nos interactions. Et effectivement, le fait qu'il y ait une volonté gouvernementale de à minima de réguler ça, je pense que déjà au niveau du signal, hein, au niveau du message qu'on envoie, c'est un message positif, c'est un message fort, parce que ça signifie que effectivement ce n'est pas anodin, que ce sont des choses qui sont dommageables pour le vivre ensemble, qui sont dommageables pour la qualité des interactions. Et c'est exactement la même chose, peut-être on y reviendra un petit peu plus tard, mais très souvent nous en formation on essaye de sensibiliser les gens au fait que des propos racistes, c'est pas de l'ordre de l'opinion, hein. Très souvent nous on donne de la formation continue à des professionnels. Et on travaille sur des cas vécus, hein, sur ce qu'ils rencontrent dans leur bureau, voire au guichet, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup de fonctionnaires. Et souvent, les gens nous disent « Oh, ben écoutez, quand on entend des propos racistes, ben écoutez, c'est l'opinion du collègue, et il ne nous revient pas de nous occuper de l'opinion. » Et on leur dit non. Non, non, les propos racistes, ce n'est pas de l'ordre de l'opinion, c'est puni par la loi. Et si le législateur a statué, a réfléchi et a décidé de punir ces formes d'expression, c'est parce qu'elles sont dommageables. C'est exactement balancer une allumette dans le Ventoux ou ailleurs en plein été. C'est une attitude criminelle parce que ça va permettre la propagation d'un feu de forêt. Le porter des discours haineux, porter des propos racistes, porter des propos antisémites, c'est véritablement un potentiel incendiaire sur le vivre ensemble. Et le rôle de l'État, et pas que le rôle de l'État, le rôle des acteurs sociaux, de la société civile, de la Ligue, de la Fondation et de bien d'autres, c'est de porter aussi ce message. Donc je pense qu'à minima sur le message, sur l'efficacité, nous verrons bien. Mais oui, c'est positif. Je pense que ça témoigne de la part du gouvernement d'une prise de conscience, d'une réalité aujourd'hui qui s'impose et qui, contre laquelle il faut essayer de résister.
Alors, la banalisation, malheureusement, ce discours se banalise. Alors, après, chez nos concitoyens, je ne sais pas si souvent on entend dire « ça, je n'ai pas le droit de le dire parce que je risque d'être sanctionné », alors que le problème n'est pas là. C'est « je n'ai pas le droit de le dire ». Pourquoi je n'ai pas le droit de le dire? Et bien souvent, voilà, on transforme. Les gens ne disent plus. On l'entend, ça et là. Ouais. Ils n'osent plus le dire parce qu'ils savent que derrière, ils peuvent être punis. Mais il y a l'intention quand même de le dire qui reste. Oui. Donc, ils n'ont pas compris finalement. Et c'est là que comment on peut agir là-dessus?
Eh ben, on peut agir par... par exemple, nous, ce qu'on fait à la Fondation du Camp d'Émile, c'est-à-dire, ce sera le cas de la conférence que j'aurai le plaisir de prononcer cet après-midi, on peut agir en essayant de donner des outils de compréhension intellectuelle, d'où viennent ces choses-là, d'où viennent les origines. Par exemple, l'exemple que vous prenez, c'est très bon. La question n'est pas la question de la sanction. Sylvie, tout à l'heure, présentait l'origine de la Ligue de l'enseignement, et j'y suis très sensible parce que elle a dit deux choses auxquelles nous, à la Fondation du Camp d'Émile, on est très sensible. Elle a parlé d'éclairer le citoyen. Eh ben, on fait exactement le même travail. On essaye d'éclairer. La Fondation du Camp d'Émile, par le lieu qui est le site mémorial du Camp d'Émile, hein, rapidement, le Camp d'Émile, c'est une ancienne usine de briques et de tuiles, hein, qui est très très ancienne, puisqu'elle sera fabriquée en 1882, ouverte en 1883. Elle va être très très prospère jusqu'au milieu des années 30. Dans le milieu des années 30, pour des raisons justement liées à la proximité de la Seconde Guerre mondiale et de récession économique suite à 1929, la crise de 1929, c'est un lieu qui va être fermé, donc c'est un lieu qui va se trouver désaffecté. Et au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, le 3 septembre 1939, c'est un des lieux qui va être réquisitionné par l'État français. On est encore sous la Troisième République, hein, c'est la fin du gouvernement d'Aladier, il ne faut pas l'oublier. Les gens jugés, évalués par l'État comme sujet ennemi, vont commencer à être internés dans cet endroit-là. C'est un camp qui va durer pendant 3 ans, et malheureusement, à la fin de sa période de camp, c'est-à-dire à l'été, automne 1942, ça va aussi devenir un lieu de déportation. Et aujourd'hui, à travers de ce lieu, on en fait à la fois un lieu d'histoire, à la fois un lieu de mémoire, puisqu'on peut visiter les lieux d'internement des internés avec un état de conservation assez important. Mais c'est aussi un lieu d'éducation, et notamment d'éducation à la citoyenneté. Et évidemment, on ambitionne d'éclairer le citoyen. Sylvie, tout à l'heure, Madame Rignac parlait de d'accompagner la République naissante. Alors aujourd'hui, heureusement pour la République, elle est plus tout à fait une adolescente. On peut même peut-être la qualifier de vieille dame, avec tout le respect qu'on doit aux vieilles dames. Mais aujourd'hui, il convient aussi de soutenir cette République, parce qu'elle est attaquée, parce qu'elle est malmenée, parce que la laïcité, par exemple, qui est une thématique qui est au cœur des formations qu'on donne, est une notion aujourd'hui sur laquelle il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de malentendus.
Énormément.
Donc sur lequel on fait beaucoup de travail de pédagogie. Et sur l'exemple que vous preniez de la sanction, les gens disent « je ne vais pas le dire parce que j'ai peur d'être sanctionné ». C'est pas du tout une question de sanction, c'est déjà se poser la question de pourquoi. Pourquoi je dirais ça? Pourquoi je m'autoriserais le fait de dire quelque chose qui va abîmer l'autre, qui va abîmer les autres communautés? Très souvent, nous, on explique en formation, par exemple, parce qu'en France, on est un pays, on aime bien les idées, hein, on aime bien parler des idées, c'est une bonne chose. Et très souvent, quand on parle de la liberté d'expression, on fait une confusion, on pense que la liberté d'expression est une liberté positive, c'est-à-dire une liberté qui n'aurait pas de limite. Mais ça, en France, ça n'existe pas. C'est une forme de libéralisme, surtout nord-américain et anglo-saxon. En France, on a plutôt une conception négative de la liberté, c'est-à-dire que oui, on a une liberté, oui, elle est importante, mais la liberté, dont la liberté d'expression, comme toutes les formes de liberté, doit s'exprimer dans le cadre de ce qui est défini par la loi, et le législateur a statué que certaines choses, on ne pouvait pas avoir la liberté de les dire, parce que si on les disait, on contrevenait à l'idée même du contrat social et de faire communauté. Donc oui, effectivement, vous avez raison, c'est pas une question de sanction, c'est d'abord se poser la question, pourquoi je m'arrogerais le droit de...
Pourquoi là? Alors, une journée comme aujourd'hui, importante, ce septième événement, cette septième rencontre, beaucoup d'ateliers. Il y aura des synthèses, je suppose, tout à l'heure, sur les ateliers. Oui. Ils seront rapportés. Les thèmes, comment ont-ils été choisis, ces thèmes? Il y en a quelques-uns, je répète. C'est quoi la catégorisation? Jouant avec l'interculturalité, être humain, vivre ensemble, accompagner des mineurs étrangers isolés, un pas en avant, une résistance face à la discrimination, et racisme et préjugés. Comment ces thèmes, qui sont forts également, ont-ils été amenés, discutés au sein de votre organisme?
Alors, comme vous venez de le dire, c'est une action que l'on porte depuis plusieurs années. Alors, comment ces thèmes ont été choisis? Eh bien, un peu à travers les actions que nous menons sur le terrain. C'est-à-dire que les ateliers qui sont proposés aujourd'hui ne sont pas neufs, ils ne sont pas nouveaux. Ils ont été élaborés depuis plusieurs années. Ils ont couru, ils ont fait leur vie. Et aujourd'hui, si on les propose, c'est parce qu'on sait que en dehors de cette journée, on va pouvoir les proposer à d'autres structures.
Alors justement, je vous coupe deux secondes. Est-ce qu'il y a justement, c'est le but de ma question, est-ce qu'il y a une évolution sur les thèmes, ou est-ce que vous êtes obligé justement sur le terrain d'évoluer? Alors les discriminations, voilà, ce sont des discriminations, mais est-ce que pour les aborder sur le terrain, avec les jeunes, avec les publics, est-ce qu'il y a un changement, même vous en tant que conférencier, est-ce que vous êtes obligé d'aborder les choses différemment pour la compréhension des gens? Ou voilà, je ne sais pas.
Alors dans un premier temps, je vous dirais non. Parce que nous sommes sur des méthodes dites actives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part toujours de l'action pour théoriser et remettre en action. C'est ça, le cœur de métier de la Ligue de l'enseignement, c'est ça, hein, l'éducation populaire. On part de l'action. On se demande pourquoi on a agi comme ça, pourquoi on a eu ces réponses-là. On apporte de la réflexion, de la théorie, et du coup, ça permet de repartir dans une nouvelle action. Donc, dans un premier temps, je vous dirai cette réponse-là. Dans un deuxième temps, est-ce que l'on doit s'adapter? Oui, bien évidemment, mais on n'arrête pas de s'adapter. C'est-à-dire que selon que l'on va aller sur des rencontres avec des jeunes de collège, ou des rencontres avec des publics adultes dans des centres sociaux, ou des... On s'adapte à chaque fois, mais on s'adapte en quoi? On s'adapte par rapport aux réponses qui sont données, tout simplement. Et on adapte la théorie à ces questions qui sont posées sur le terrain. Mais la théorie en elle-même, elle ne change pas beaucoup. C'est juste l'habillage, je dirais, de la réponse qui va s'adapter au public lui-même. Donc ces ateliers, ils ont mûri dans le sens qu'on a perfectionné pas le contenu des réponses, mais la forme.
Josée.
Oui, est-ce que vous, comme vous rencontrez justement des publics adolescents, adultes et tout, est-ce qu'il arrive que vous retrouviez un point commun, une même réflexion chez les jeunes que chez les adultes ou pas?
Question délicate. Le point commun de ma position de présidente, je ne suis pas forcément toujours dans les ateliers, mais de ce que je peux percevoir, soit quand j'en mène moi-même, soit du retour des personnes qui les font. C'est qu'en fait, très souvent, les résistances ne sont pas très fortes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que les gens, très volontiers et de façon très souriantes acceptent de travailler. Par contre, ce dont on se rend compte, c'est qu'à un moment, on va arriver à toucher le cœur de quelque chose. Et que ce cœur de quelque chose-là, pour le faire bouger, il faut du temps. Alors, est-ce que, parce qu'on pourrait arriver à cette question-là après, est-ce que finalement notre action, elle a un impact ? Eh bien, moi, je crois justement que c'est dans la répétition. C'est-à-dire que quand on participe...
Éduquer, c'est répéter.
Éduquer, c'est répéter. C'est trouver des entrées différentes, c'est modifier, c'est changer les ateliers d'une année sur l'autre, même si le fond est toujours le même. Mais pour revenir à ce petit levier à un moment qui va faire que, comme me disait un jeune l'autre jour avec qui je faisais un atelier sur la laïcité, à un moment il m'a regardé, il m'a dit « Madame, les mots que vous dites, ils chantent dans ma tête.
» C'est un beau compliment.
Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je ne comprends pas. » Il me dit « C'est comme une chanson. On n'écoute pas forcément les paroles, mais voilà, j'avais touché quelque chose. » Alors, on n'était pas allé sur des grandes idées de la laïcité et tout, mais il y avait quelque chose qui s'était ouvert à ce moment-là. Il va falloir continuer à travailler pour faire passer...
On parlait justement chez les jeunes d'une violence dans la façon de s'exprimer, même entre eux. Ils s'expriment vraiment avec des mots très violents. Moi qui fais partie maintenant des plus anciens, je ne pense pas qu'à notre époque on s'interpellait d'une manière aussi violente. Et maintenant, c'est vraiment très très violent. La façon dont on les entend dans la rue, souvent en attendant, je ne sais pas si ça vous arrive de capter des discussions entre eux, c'est vraiment... c'est tout par la violence des mots. On a l'impression qu'ils ne communiquent plus que de cette manière-là.
C'est une nouvelle langue.
Est-ce que ça vous inquiète, cette façon de faire ? Ou est-ce que c'est leur langage à eux, mais qui pour autant n'est pas...
Alors, il faut faire attention hein, parce que moi, dans ce qui me concerne, par exemple, j'ai une formation en philosophie et avec une spécialisation en éthique et en éthique appliquée. Mais on s'aperçoit, par exemple, quand on étudie les philosophes 5 siècles avant Jésus-Christ, que déjà ils avaient une tendance à dire écoutez les jeunes, c'est n'importe quoi, ça a plus de morale, etc. Il faut prendre un peu de recul parce que bon, puis on a l'air de vieux cons quand on dit ça, mais on, par la force des années, on le devient. Mais il faut toujours se méfier de cette espèce de discours sur les générations montantes en pensant qu'elles sont moins bien que ce que Brassens le disait très très bien. Non, par contre, ce qui est moi la forme m'inquiète pas forcément parce que elle fait partie, j'allais dire, d'un certain environnement qui est plus violent. Ne serait-ce qu'on en parlait hors micro tout à l'heure, ne serait-ce que par le développement des réseaux sociaux, par l'accès à des contenus beaucoup plus nombreux. Je veux dire, avant, on avait une possibilité de plus protéger ou de plus en tant que parent. Bon, maintenant, ça devient beaucoup plus difficile. Ce qui me semble préoccupant, ce qui me semble inquiétant, c'est pas tant la forme que les intentions. C'est-à-dire que, et on le voit tout à l'heure, vous posiez la question à Sylvie, est-ce qu'il y a des points communs entre les adultes et les adolescents ? Nous, à la Fondation, on a la chance, on a passé le cap là, des 100 000 visiteurs, on est en pleine période de rapport d'activité, donc on a les chiffres en tête. Pour 2017, on a passé la barrière des 100 000 visiteurs, ce qui est un objectif important pour la Fondation. Sur ces 100 000 visiteurs, on reçoit un petit peu plus de 42 000 scolaires, 42 à 45 000 scolaires. Ça va encore augmenter dans les années futures. Et à côté de ça, on a aussi toutes sortes de publics. Il y a un point commun qui traverse tous ces publics-là. Alors évidemment, ils le disent chacun justement avec leurs mots, avec leur forme. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui les crispations identitaires, hein, c'est-à-dire la tension entre les générations, la tension entre les communautés, etc., elle est vécue par tous ces publics. Et ce qui est préoccupant aujourd'hui dans ce que j'ai appelé la banalisation du langage et que vous avez repris de façon fort à propos avec une certaine violence dans le langage, c'est que ce qui me préoccupe chez les jeunes, c'est qu'ils ne voient pas et ils ne sentent pas que ça fait violence. Parce que ce sont des choses qu'ils intériorisent. Ce sont des choses, je vais vous donner une anecdote. Sylvie nous partageait une anecdote avec un jeune qu'elle a eu en formation. Moi récemment, j'emmène un de mes garçons au collège et je suis devant le collège et puis je vais pour gagner mon véhicule et là je vois un collègue de mon fils donc qui a 13 ans et qui s'approche de lui, qui dit ah, salut petit connard, ça va? Et là, moi, je suis un peu, voilà. Bon, mais je reprends la voiture, et voilà. Et le soir, je vais rechercher mon fils, et je lui dis donc, le copain, enfin j'espère c'est un copain, mais le copain qui t'a interpellé ce matin, est-ce que t'as un problème avec lui? Il me dit non, pas du tout. Et je dis, mais tu, enfin, la façon dont il t'a salué. Ah, il me dit non, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on se parle entre nous. J'ai eu l'occasion d'avoir un échange après avec lui, en lui disant, mais tu te rends compte que, enfin, c'est violent, et en fait, non. Non, voilà, donc ce qui est préoccupant, c'est ça.
Ça fait partie de leur vocabulaire maintenant.
Oui, et c'est surtout là où on a un décrochage. Et
la portée des mots, qui pour nous n'est pas la même, le ressenti n'est pas le même chez nous que chez eux.
Oui, c'est ça, et surtout montrer que dans un autre contexte, ça peut être violent. Ça peut être violent et ça peut produire de la violence.
Justement, tu ne sais plus faire la différence. Quand il dit connard, est-ce que c'est amical ou est-ce que c'est il pense vraiment ça complique là.
Oui, alors il faut espérer qu'au moment du vécu et du ressenti dans la situation, parce que l'être humain est quand même doté d'une lecture des émotions et c'est plutôt heureux, il faut espérer que dans ce moment-là, ils le sentent entre eux. Ce qui est plus problématique d'un point de vue de l'éducation, justement, pour revenir à la thématique et au travail important de la ligue, c'est que comme ils s'habituent à cette forme de langage et comme elle les habite, hein, ils les intériorisent, ils vont se mettre à les utiliser dans tous les espaces disponibles. Et effectivement, comme vous le dites, Josie, ne plus avoir la capacité à savoir s'ils sont dans un discours qui relève de l'irrévérence ou de l'irrespectueux, etc., ça me semble plus problématique.
C'est comme il y a d'autres mots qu'il y a quelque temps encore, comme je vais les dire, hein, tant pis, je l'ai dit, merde et putain. C'était très choquant. Maintenant, ça fait vraiment partie du langage, surtout ici dans le midi, oh putain. Ça ne choque plus ou presque plus comme c'était avant, quoi.
Oui, alors après, nous, on fait une distinction. Enfin, moi, je fais une distinction importante en formation. Il faut faire une distinction entre le respect et la politesse. Juste vous donner une image. Le respect, c'est la valeur, c'est la finalité. C'est ce qu'on veut atteindre, d'accord ? La politesse, c'est un moyen. Alors, disons que peut-être la politesse, dans les formes actuelles, est un petit peu mise à mal. On va dire que c'est l'évolution, hein, c'est l'évolution des mœurs, c'est l'évolution des pratiques, il y a une certaine libéralisation. Il y a mai 68 qui est passé par là, peut-être pas regretter mai 68, enfin, surtout pour ceux qui l'ont fait d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est de, même si ça prend des formes différentes, c'est de réussir à réinstaurer des formes de respect. Et pas forcément d'être crispé sur la forme, même si ça peut être déstabilisant pour certains plus anciens, mais d'arriver à dire, même si ça prend des formes différentes, ce qui est important, c'est la question du respect. C'est la question du respect de l'autre, c'est la question de la compréhension de l'autre. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas tout le temps certain que ce soit un prérequis. Et là, effectivement, c'est problématique.
Et si je peux rajouter quelque chose, parce que je crois effectivement essentiel le terme d'éducation aujourd'hui, et cette éducation, l'école a un rôle majeur à jouer, bien évidemment. Mais les mouvements tels que le nôtre, la Fondation des Camps des Mille, pour sa part, nous avons tous, à chaque moment, à jouer un rôle par rapport à cette éducation. Aujourd'hui, malheureusement, les sphères familiales, de l'école, de la rue, sont des sphères qui cohabitent, et où les repères ne sont pas forcément communs. Et nous avons à travailler sur quels sont les repères communs que nous devons avoir pour maintenir une société. Et ça c'est au cœur de chacune des actions que nous faisons, même si ce n'est pas affiché. Mais je crois que c'est ça, c'est arriver à se faire croiser des publics différents. Alors ça veut dire quoi, puisqu'on parle de discrimination? C'est-à-dire qu'ils viennent de lieux, simplement de lieux géographiques différents. C'est en ça qu'il faut avoir des actions départementales. C'est en ça aussi qu'il faut aller sur tous les terrains et ne pas s'empêcher d'aller où que ce soit. Et arriver à faire cohabiter, vivre ensemble. C'est pas rien ce terme de vivre ensemble. Arriver à faire vivre ensemble et à se parler, même si on n'a pas les mêmes codes.
Voilà. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien ce que tu viens de décrire, Sylvie, parce qu'il y a un proverbe africain qui me plaît beaucoup et qui dit que pour élever un enfant, il faut un village. Alors, élever au sens éduqué. Mais l'idée, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, mais parce que c'est dû à des évolutions sociétales aussi, il y a des institutions historiques comme la famille qui avait un rôle structurant important, qui aujourd'hui, ce rôle-là est plus difficile à tenir, et pour des tas de raisons, hein, pour l'éclatement des familles, pour
le travail, l'éloignement,
etc. Il y a plein de choses. Et c'est ni bien ni mal, je veux dire.
C'est un constat,
c'est une évolution, etc. Par contre, les forces vives de la société civile et autres, on doit réfléchir sur de nouvelles formes d'éducation. Et effectivement, des formes qui sont sur des dynamiques de convergence. Et très souvent, nous, même dans le milieu des fondations qui sont sur la question de la mémoire, etc., on peut assister à des effets de concurrence, hein, organisationnelle ou autre. Et c'est pas l'idée, parce que il y a suffisamment de problématiques à traiter et à saisir pour effectivement essayer d'instaurer des dynamiques de convergence, parce que sinon ça va être longtemps.
Vous êtes sur le devoir de mémoire, nous on est sur l'éducation média, vous êtes sur une autre éducation, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde, effectivement, c'est par ces mots qu'on pourra conclure. Il y a du chemin à parcourir.
Tout à fait.
En tout cas, on rappelle, M. Cernoia, cet après-midi, votre conférence à 13h45 en partenariat avec le camp des Mille, je vais arriver, d'Aix-en-Provence. Donc, en présence de vous-même, Jérôme Cernoia, vous êtes éthicien, adjoint. Qu'est-ce que vous pouvez me préciser ce mot? Je ne vais pas chercher ça.
Alors, des éthiciens, il n'y en a pas beaucoup en France. Ce sont des praticiens en éthique organisationnelle et professionnelle. Et justement, on essaye de sortir de la posture morale. La posture morale, en gros, il y a des instituteurs qui vont hurler, mais c'est une posture qui consiste à donner des bonnes images, hein, si on a bien fait. La posture éthique, c'est une posture qui fait un pas de côté et qui n'est pas dans la question du bien ou du mal, c'est dans la question du juste.
Hein,
c'est l'interrogation et l'interpellation du juste et de l'adéquat. Et moi, j'ai eu la chance de faire ma formation en philosophie en éthique au Québec, plus d'une dizaine d'années. Et après, comme je suis quand même natif de la région, parce que je suis né à Fuveau, juste à côté de Gardanne, franchement, le climat méditerranéen, même si le Québec est une province absolument magnifique, j'ai quand même été rappelé par le soleil et j'en suis très heureux.
En tout cas, merci également à Sylvie Brignatz, vous êtes la présidente de la Ligue de l'enseignement et bien sûr co-organisatrice avec la Fédération des centres sociaux du Vaucluse de cette 7e rencontre SECD, Semaine éducation contre les discriminations. Merci à tous les deux d'être passés dans les micros.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Vivez l'événement en direct.
En direct avec RTVFM.
RTVFM.